Ville et patrimoine, le premier salon sur la réhabilitation du bâti existant, le 13 juin 2024 au Palais de la Bourse à Bordeaux, sur Radio Immo et Radio Patrimoine.
Eh bien, bonjour les amis, on est ravis d'être avec vous toujours. 15h bientôt, il est 14h50 exactement, édition 2024 du salon Ville et Patrimoine. Et je vous le dis les amis, je ne vais pas bouder mon plaisir, puisque j'ai la chance d'accueillir sur le plateau quelqu'un que je connais bien. C'est le plus joli sourire de l'immobilier, une grande professionnelle et une grande dame de l'immobilier. Elle est la dirigeante fondatrice d'Espace Investissement, c'est notre amie Jeannette Guinaudot.
Bonjour Sylvain, merci pour les compliments.
Mais c'est vrai.
Eh ben, ça va bien dans un contexte quand même anxiogène.
Vous savez ce qui est bien avec vous ? Non. Je vous l'ai déjà dit il y a 6 ou 7 ans de cela, quand je vous avais interviewé pour la première fois, c'est que quand vous souriez, il y a tout l'espace autour de vous qui sourit en même temps.
Voilà.
Merci. Voilà, vous êtes la seule personne que j'ai rencontrée dans ce métier qui fait sourire même les objets. Voilà.
Que de compliments.
C'est pas mal.
Ah, c'est sympa.
Jeannette, alors, quelques mots sur Espace Investissement et on va parler un petit peu, rentrer un peu dans le dur parce qu'on a un marché un peu chahuté quand même.
C'est clair.
Espace Investissement.
Alors, Espace Investissement est dans sa 24e année. Déjà 24 ans. 80 projets menés depuis ces 24 ans, allant de 3 à peu près à 70 logements. Où Espace Investissement, on a vraiment basé notre expertise sur la réhabilitation de bâtiments anciens qu'on a fait migrer vers la requalification urbaine. Notre expertise, elle va d'hôtels particuliers, de bâtiments monuments historiques, des anciennes casernes militaires, des anciennes maternités, des anciennes écoles, des anciens bureaux, des anciens hôpitaux psychiatriques des années 70 maintenant.
Et ça change de destination ? Alors, leur redonner vie ?
Absolument. Et nous, on est bien aimés parce que le ZAN, c'est bien. Voilà. Alors, on a quand même des contraintes de ZAN.
Sur des espaces bâtis ?
C'est-à-dire qu'il faut protéger au maximum les surfaces et ne pas artificialiser ce qu'il en reste. Et quand il faut caser les stationnements, on se retrouve à avoir des contraintes. Et finalement, quand on a de la requalification urbaine avec des changements de destination, souvent ce qui va driver notre projet, c'est le nombre de stationnements que l'on va pouvoir faire, qui va dicter la programmation et les logements. Mais on a aussi beaucoup de contraintes. Par exemple, à La Rochelle, nous allons sortir un projet bientôt dans des anciens bâtiments d'Orange. Eh bien, initialement, je voulais faire du co-living, une auberge de jeunesse.
Co-living, j'adore.
Bah oui, et c'était c'était vraiment un produit hybride. Oui. Ma volonté, c'est vraiment de créer une marque sur des produits hybrides en lien avec des hypercentres où on a des projets de taille moyenne, donc dont il va falloir créer et inventer une nouvelle gestion. Comme je dis, où les charges fixes partent pas dans les cols blancs qui passent leur temps à faire de la gestion et à un moment donné, ça devient pas rentable. Mmh. Et on le voit bien actuellement avec toutes les RSS qui sont en difficulté. Et on n'a pas pu le faire parce que la ville a souhaité exclusivement du logement, par exemple. Et donc, contrainte de stationnement. Donc, on fait un métier qui est quand même pas simple.
Pour des cœurs de ville, ça carrément. Des fois, c'est même tâche impossible.
Oui, et dès lors qu'on est en ville, en centre-ville, mais pas en cœur de ville, quand on est dans des AVAP, par exemple, et qu'on change de destination, la règle, il faut des stationnements, et
est-ce que
c'est
ça
comme
peut,
ça.
Est-ce que ça peut mettre fin à un dossier ?
Bien sûr, il y a des projets qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne peut pas répondre aux contraintes de stationnement.
Ça doit être rageant quand vous êtes là. Alors, vous êtes quand même pas croyable.
C'est rageant.
J'aurais pu faire un truc super. Et à cause de trois foutues, je caricature, place de parking, je ne vais pas pouvoir le faire.
C'est rageant. Et puis il y a quand même un problème où les politiques ont quand même un manque de logique et un manque de bon sens. Je suis gentille.
Alors, manque de bon
c'est
sens.
C'est un pléonasme.
Manque de bon sens, homme politique. Pléonasme. Hein.
C'est ça, c'est un pléonasme.
Bon, je caricature.
Mais comme exemple, des projets qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne peut pas répondre à la problématique de parking et ils ne veulent rien entendre, des opérations qui ne se font pas, alors que ces mêmes politiques pleurent qu'il y a un manque de logement. Donc, l'erreur.
Alors, les élus locaux ne sont pas toujours coupables, mais parfois c'est un système qui les amène parfois dans des goulots d'étranglement.
Et les services administratifs, leurs fonctionnaires.
Alors là, De toute façon, je vais vous dire, les Français ont sifflé la fin de la récré.
Ah ben là, oui, on ne sait pas où ça va nous mener, mais voilà. On sait qu'on y va.
Cette France dédaignée, cette France méprisée, elle a dit stop. Voilà, elle a dit stop. On s'est rendu compte quand même, c'est intéressant, parce que ces hommes politiques-là, qui s'entourent de beaucoup d'incantations et de mots dithyrambiques, ou même de phrases un peu délirantes, quelquefois, ont tendance à oublier qu'il y a une France dans la ruralité. Il y a des gens qui vivent dans des villages où il n'y a plus de services publics, où il n'y a plus de commerce, où on a de l'immobilier abandonné. Alors, parce que ça, vous imaginez d'aller dans des bleds, aller à 100 km d'une grande agglomération, partir en déshérence, quand on sait qu'il y a des dizaines de milliers de familles qui galèrent pour se loger. Il y a un non-sens quelque part. Et d'ailleurs, les promoteurs... effectivement, qui ne font pas pleurer aujourd'hui, parce que les promoteurs qui tombent aujourd'hui les uns après les autres font pleurer personne. Mais sans les promoteurs, ben, il n'y a pas de logement social, parce que un logement social sur deux est fabriqué par des promoteurs. Ça doit vous faire rager, ça aussi.
Ah, mais c'est clair, c'est-à-dire que depuis l'objectif de ne plus faire d'immeubles sociaux, ce sont quand même les promoteurs qui ont fait le social. Il ne faut quand même pas que les privés et les individus, les familles oublient qu'elles ont payé le social de par le système. Parce que quand vous avez dans une opération 40% de social à faire, eh bien c'est les 60% de privés qui le payent à un moment donné. Puisque quand vous avez un bien avec un coût de revient de X et que le bailleur social va l'acheter 50% de moins, bah, le bilan à un moment donné n'est pas extensible.
Mais évident.
Voilà. Mais moi, là où je voudrais parler, c'est quand vous parlez de villes moyennes, où aujourd'hui on a un vrai problème, c'est qu'on voudrait développer les villes moyennes. Parce qu'il y a un vrai, vrai marché, justement.
Ah oui, j'y crois beaucoup.
Moi, je crois beaucoup.
Vous y croyez aussi.
Je crois beaucoup à la ville, à la campagne, en fait. C'est-à-dire, vous êtes dans des périphéries à 50, 60 kilomètres d'une grande ville. Et les gens ont ce besoin de vivre un peu au vert. L'après-Covid nous l'a démontré. Mais la difficulté que nous avons, c'est que le post-Covid a fait que nos coûts de revient sont très importants. Les prix de vente ne sont pas extensibles parce qu'à un moment donné, les prix sont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chers. Et c'est là où je pense que les collectivités ont un gros travail à faire, enfin, donc les politiques, de système de subventions ou d'accompagnement ou d'aide, où enfin, il faudrait se mettre autour de la table et pouvoir discuter, parce qu'il faut pouvoir monter des bilans où on puisse économiquement gagner notre vie. Nous avons des entreprises, donc elles doivent être bénéficiaires. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire, mais il ne faut pas que parce qu'on fait de la réhabilitation, parce qu'on y met un cadre fiscal, personnellement, je suis contre le fait de vendre le double ou le triple de ce que le marché, par rapport à la valeur marché. Et ça, c'est quand même une vraie difficulté, qui sont la valeur en lien avec le coût.
Alors, justement, c'est intéressant parce qu'on l'a vu, avec la guerre en Ukraine, l'explosion des coûts des matériaux, des hausses de taux d'intérêt qui ont été absolument phénoménales.
Ça, c'est sûr.
Alors, vos collègues disent, écoutez, finalement, la normalité, ce serait plutôt 3-4%. Effectivement, on a vécu finalement une période anormale où l'argent était très, très peu cher et les Français s'y sont habitués. Mais quand même, ça a resolvabilisé pendant plusieurs années des Français qui ont pu accéder à la propriété, ils ne peuvent plus aujourd'hui. Alors justement, là, en juin, il y a 0,25 de baisse annoncée par la BCE sur les taux directeurs. Est-ce que vous sentez, de votre point de vue, qui est un acteur local, une relance du marché ou des indicateurs qui vous font penser que on est peut-être pas loin de la sortie des crises ou pas?
Alors, on n'est pas loin de la sortie d'une partie de la crise. Je vous disais, depuis 25 ans, moi, c'est à peu près la quatrième crise que je vis, mais c'est la première crise qui est multifactorielle, puisque est arrivée en même temps les conséquences Covid, guerre en Ukraine, la hausse des taux et l'arrêt du Pinel. Et il ne faut pas oublier qu'en France, l'immobilier a fonctionné à peu près à 50-60% depuis 1988, donc depuis 36 ans, avec l'effet de levier des lois de défiscalisation. Et aujourd'hui, ça s'arrête. Et la grosse problématique, c'est qu'il n'y a eu aucune anticipation sur comment on transfère la non-défiscalisation en accès au logement. Et si les pouvoirs publics décident qu'il n'y a plus de défiscalisation, parce que ça, quand même, ça, accessoirement, ça permet quand même de loger des millions de gens. Aujourd'hui, la problématique
Comment inciter des petits propriétaires à investir pour louer leurs biens s'ils n'ont aucune contrepartie?
Exactement. Et moi, quand j'ai commencé ce métier en 88, en vendant de l'immobilier de défiscalisation, eh bien, il y a 35 ans, les arguments étaient exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Mais là, on y va vraiment, c'est le complément de revenu pour la retraite. Et donc, l'immobilier est le seul élément qui est un véritable effet de levier entre votre épargne avec la capacité d'emprunt, le locataire qui paye un bout du crédit et vous épargnez par obligation. Et accessoirement, ça permet de loger des gens. Donc en fait, tout le monde s'y retrouve. Et aujourd'hui, on n'a plus ça, mais rien n'a été mis en contrepartie. Parce qu'il y a des tas de solutions, en fait, par rapport au logement. On peut décider qu'il va y avoir des structures qui vont être créées de bailleurs sociaux privés avec, par exemple, des grandes entreprises qui vont amener des avantages pour les salariés. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, la problématique des salariés qui veulent acheter où le logement, c'est compliqué, surtout avec la hausse des taux, c'est que lorsque les taux étaient à 5 ou 6 % il y a 25 ans, l'immobilier n'était pas cher. Aujourd'hui, quand vous avez un taux à 4 %, mais que vous avez de l'immobilier qui est très cher, il y a un moment donné, d'un taux à 1 % qui est passé de 1 % à 4 %, eh bien, vous donne une capacité d'emprunt de 20 % de moins.
C'est clair.
Donc, 20 % c'est 20 % du logement en moins. Donc, c'est une chambre ou deux.
C'est l'impossibilité pour un couple avec des enfants de pouvoir se loger. C'est l'absence de projection, effectivement, sur le logement. Et surtout qu'en plus, maintenant, on a des nouveaux usages. Parce que vous les avez observés, vous, ces nouveaux
tout
usages.
Tout à fait.
Aujourd'hui, on n'a pas du tout les mêmes clients. Hein. Ils veulent quoi? Des communs, des extérieurs? Ils veulent aujourd'hui de l'air, de l'espace?
Absolument.
C'est quelque chose qui dure. Hein.
C'est quelque chose qui dure. Et là, moi, sur des projets de réhabilitation dans lesquels il y a des grands jardins ou des parcs, ou depuis des années, alors je faisais ça même avant le Covid, c'est de réinterpréter ce que j'appelle les maisons de famille.
Donc, les fameuses pensions de famille.
Les maisons de famille.
Oui, les maisons.
Les maisons de famille qui étaient des grosses maisons particulières.
C'était comme des petits hôtels particuliers.
Exactement. Eh bien, les familles prenaient leurs affaires dans le panier et allaient déjeuner dans le jardin. Et donc, je me dis, ces grosses maisons de famille que l'on transforme en copropriété, eh bien, à nous de recréer ces espaces extérieurs pour que les familles puissent revisiter. En fait, ce sont des grandes familles, des maisons de famille revisitées où les familles vont pouvoir vivre sans terrasse, mais avec des jardins
à l'extérieur,
collectifs.
Absolument.
Et moi, je crois beaucoup, beaucoup à cela.
Ouais, moi aussi.
Parce que on est aussi dans une société de gens qui vivent dans leur coin avec les réseaux sociaux, et en même temps, il y a besoin de partage. Donc, c'est le paradoxe.
Un pays qui, une génération qui communique incroyablement.
C'est ça.
Mais en étant seul.
C'est ça.
Finalement, isolé. Les cœurs de ville, ça vous parle beaucoup. Hein. La requalification des cœurs de ville, même des centres-bourgs, des villes à taille moyenne. Il y a un avenir encore pour ces centres-villes. Alors, on va enlever les centres-villes des grandes métropoles, où là, il n'y a pas de débat. Il y a même plusieurs centres-villes dans les grandes métropoles. Mais sur des villes moyennes, donc à vous parler, les cœurs de ville ont une importance très forte.
Mais moi, je
on avait déserté ces centres-villes. Aujourd'hui, ils redeviennent bankable.
C'est ça. Les centres-villes, les gros centres-bourgs redeviennent bankable. Mais il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement des pouvoirs publics pour qu'il puisse y avoir des systèmes de subventions ou des crédits à taux plus bas. Il faut trouver des solutions parce qu'on a une problématique de réalité économique. De coûts de revient qui sont beaucoup plus chers que le marché. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour le rendre attractif.
Bien sûr.
Parce que je suis convaincue que c'est une vraie solution à la non-artificialisation des sols. On va construire sur les villes et on va rajouter des étages sur les immeubles existants, mais ça ne suffira pas. Et il y a toute une population qui, pour moi, je qualifierais de rurbaine, c'est-à-dire une population urbaine qui a envie de ruralité. Et il faut, faut retrouver le juste équilibre. Et en tant que réhabilitateur de bâtis anciens, je pense qu'on a un vrai travail à réaliser.
C'est quoi le projet de Jeannette Guinaudot et d'Espace Investissement pendant les années qui viennent?
Alors,
c'est quoi votre trajectoire?
Alors moi, la trajectoire, eh bien, Viva que nous avons créé.
Donc
nous,
ça, c'est la marque, en fait.
Ça, c'est l'agence immobilière.
Voilà, qui ferait de l'administration de biens.
Voilà.
Pour le compte de tiers.
C'est ça. Nous avons créé la marque Viva, qui est une marque très premium pour travailler là sur. On est en train de faire un gros projet sur l'île de Ré où c'est une très grosse maison. Mais avec la vraie signature espace investissement singulière dans la façon de voir ma façon de voir l'habitat, je dirais très en détail.
Et c'est une maison qui va être vendue ensuite.
Exactement, voilà.
Donc, vous l'avez achetée, vous la rénovez.
C'est ça.
Et vous la revendez.
C'est
vous
ça. C'est un ensemble de deux maisons et puis un terrain sur lesquels nous faisons un chai et un permis de construire sur un terrain de 1800 mètres carrés. Un chai avec une maison sur pilotis puisque nous sommes en zone submersible. Voilà.
Ça fait rêver.
Ouais, il y a ça.
Ça fait rêver.
Et puis, moi, mon...
C'est combien? Je veux l'acheter.
Alors, bon, c'est un peu... 3,3
millions. Ah oui, oui, d'accord.
La maison, là, qui est en travaux. Et puis, l'autre terrain avec le permis, 2 millions. Il faut construire la maison en plus.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Je vais peut-être attendre un peu. Hein.
et le vœu pieux d'espace investissement au niveau du groupe, là, c'est vraiment de travailler sur les nouveaux usages, mais en lien avec l'exploitation. C'est-à-dire, c'est travailler sur de l'habitat mixte ou sur un même projet, eh bien, on imagine des étudiants, une mini résidence senior de 10-12 lots et du logement libre dans lequel on vient amener du service, où là, on est en hypercentre et c'est pour répondre vraiment à une demande de personnes âgées qui sont autonomes et qu'ils ne veulent pas aller dans des RSS de 80 ou 100 lots.
C'est clair.
Et là, je pense qu'il y a un vrai, vrai travail à faire. Il faut travailler sur la rentabilité puisqu'il faut trouver des modèles d'exploitation light et il faut être extrêmement agile parce que la réalité aussi, c'est que dans les années à venir, je ne suis pas sûre qu'il y aura autant de millions de retraités qui auront la capacité de mettre 3000 euros par mois dans des résidences.
Ah non, voilà. Ah non. Mais non, 3000 euros par mois, vous imaginez,
bah oui.
Vous imaginez, ça représente une partie infime de la population.
Oui.
Les gens ont des revenus extrêmement faibles. Et justement, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'adaptation du logement dans lequel il se trouve, ou le vieillissement de ces populations, là où ils se trouvent, est aussi une alternative pour éviter d'engorger des maisons dans lesquelles ils n'auraient plus les moyens d'accéder.
C'est ça.
Et en plus, c'est même pas une question de moyens, c'est qu'en plus, il n'y aura pas suffisamment d'offres. On le voit, le nombre d'espaces pour ces personnes-là est déjà réduit. Et on s'attend à un choc, d'ailleurs, anthropologique absolument important. D'ailleurs, c'est notre génération qui est concernée.
Et donc, en parlant d'anthropologie, il y a le béguinage. On parle de béguinage dès lors qu'on est dans des modes de vie à vocation sociale. Et moi, ce que je veux réussir à créer, c'est du béguinage libre. Donc, ça ne s'appellera pas béguinage, mais c'est l'idée. C'est de travailler sur des modes agiles, intergénérationnels.
Mais oui. Mais sur des petites unités, par exemple?
Sur des petites unités.
Avec des personnes âgées, des jeunes, avec un accès très
absolument
frugal et un soutien. C'est très bon pour
En logement libre, parce que moi, je n'ai pas la capacité de faire du social et je considère que ce n'est pas mon job. Je suis une boîte privée, donc je fais du logement libre. Et là, plutôt pour des gens qui ont un petit peu de moyens, parce qu'on va être en hypercentre.
Ah oui, bien sûr.
Mais avec un rapport qualité-prix agile, parce qu'il faut qu'on trouve le modèle économique d'exploitation qui soit en lien avec de l'exploitation où on va chercher les services externes.
Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous avoir.
Merci Sylvain.
Jeannette Guinaudot, fondatrice d'Espace Investissement qu'on retrouve sur Internet très facilement. Si on veut savoir tout ce que vous faites, on tape simplement Espace Investissement avec Jeannette Guinaudot. Merci beaucoup. D'ailleurs, on va mettre l'URL du site Internet sur le podcast. On va se retrouver ce soir pour la soirée de gala.
Absolument.
Avec grand plaisir. Voilà, il est 15h11. On enchaîne toujours avec nos programmes ici, édition 2024 du Salon Ville et Patrimoine. On se retrouve dans quelques instants.
Ville et Patrimoine, le premier salon sur la réhabilitation du bâti existant, le 13 juin 2024 au Palais de la Bourse à Bordeaux, sur Radio Immo et Radio Patrimoine.